Salut tout le monde, bienvenue à une autre édition de Sortie de zone. Mon nom c'est Jérémy Filosa. 24 heures seulement après la date limite des transactions qui s'est complétée bien sûr lundi avec le Canadien qui a fait quelques transactions. Allons-y tout de suite avec ceux qui sont autour de la table avec moi pour l'émission d'aujourd'hui. Jérémy Rainville du 98.5. Salut Jérémy.
Salut Philo.
Guillaume Lefrançois de la presse. Salut Guillaume.
Salut Jérémy.
Et Alexandre Pratt de la presse aussi. Salut Alex.
Bonjour à tous.
Bon, les gars, victoire du Canadien hier soir contre les Maple Leafs de Toronto. Disons qu'on s'attendait pas à ça, surtout avec les dernières performances du Canadien, mais on s'habitue un peu. Hein. C'est une équipe, on a de la difficulté à les suivre. Ils tombent dans de bonnes séquences, ils tombent dans de moins bonnes séquences. C'est vraiment... ils sont très inconstants cette année, mais hier, ils en ont quand même sorti une bonne. Jake Allen en a aussi goalé une bonne, comme on dit. il a donné une chance à son équipe dans ce match-là. Et il y a eu quelques petits changements qui ont été effectués. Moi, j'ai bien aimé le fait que Petrie est revenu avec Edmondson et ça s'est quand même très bien passé. Là. Ça faisait déjà quelques matchs qu'on réclamait le retour de ces deux gars-là. Et je sais pas ce que vous avez pensé de la décision des Maple Leafs de retirer le gardien avec quoi près de 3 minutes à faire. Et surtout quand les Maple Leafs n'avaient pas le plein contrôle de la rondelle en territoire adverse. On dirait que ça leur a complètement scié les jambes, cette
Mais
décision.
On a pris le blâme, hein? Le gardien de but, Jack Campbell, après le match, il dit honnêtement, je viens de coûter la victoire à mon équipe. Le
à coach, cause de ça, ouais, spécifiquement?
Ben là, écoute, à cause non. de ça, lui, il disait à cause de son effort. Il y a quelques buts qui pourraient être revus dans le match.
Celui d'Anderson.
Ouais, entre autres. Mais c'était quand même un bon lancer, logiquement, c'est supposé d'arrêter ça. Peut-être un problème de jugement, parce que c'est le gardien de but qui est face au jeu, qui voit que le Canadien peut être en contrôle. Donc, c'est lui qui, quand même, décide de se diriger au banc. Sheldon Keefe, de son côté, dit c'est all on me. Parce que c'est lui qui a appelé le jeu. Fait que tout le monde s'auto-flagellait hier après le match dans cette défaite. Mais une victoire du Canadien, ça fait du bien. T'as parlé du trio, pas du trio, mais du duo de Joel Edmondson avec Jeff Petrie. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, barrer ça le cadenas, là? Barre ça, jette la clé.
Y en a
on
un,
touche plus à ça.
Il y en a un qui te permet pas de le barrer.
Hein?
Il y en a un qui te permet pas de le barrer. Arrêtons de se cacher, là.
De quoi tu parles?
Mais quand on a déplacé Edmondson avec Weber, pourquoi tu penses qu'on l'a mis là?
Ça pourrait aider Weber.
Et voilà.
OK.
C'est un peu
un autre sujet, mais celui-là, le duo, touche plus à ça.
Non, ben, c'est ça, exact. C'est l'espèce de sacrifice, là. Tu sais, c'est la même chose qui arrive avec tes attaquants aussi. Des fois, t'as un trio qui fonctionne, les trois autres fonctionnent pas. Est-ce que tu fais exploser ton trio qui fonctionne pour donner de l'aide aux autres ou t'essaies que les autres s'arrangent? La seule chose dans tout ça, Alexander Romanov semble vraiment jouer avec un peu plus de confiance là, dernièrement. Est-ce qu'on va finir par arriver à ce point où on pourra le jumeler à chez Weber justement puis regarder voir ce que ça donne? Ouais. C'est sûr que ça pose un problème de confrontation parce que oui, on le sait, Ducharme aime utiliser Weber contre les bons trios adverses, donc Romanov se retrouverait aussi avec cette affectation là. Mais pourquoi pas l'essayer? C'est là surtout que bon, au classement, le Canadien a un certain coussin. C'est-à-dire Edmondson et Petrie ont fait du bon travail hier contre le premier trio adverse.
Exact.
Donc est-ce que sachant ça, tu continues avec le modèle Edmondson-Petrie contre le premier trio?
Absolument.
Et Romanov-Weber contre le deuxième trio?
Absolument.
C'est une solution qui a pas encore été essayée puis qui vaudrait la peine d'être peut-être testée.
Alex, qu'est-ce que tu as pensé du match d'hier?
Ben, c'est vraiment une belle performance du Canadien, là, quand même. Les Maple Leafs, c'est quand même une des meilleures équipes de la Ligue. Juste le simple fait de gagner contre les Leafs. T'sais, l'année dernière, on n'aurait pas vu ça souvent. Le Canadien bat une des meilleures équipes de la Ligue. J'ai été encouragé. J'ai surtout été encouragé, en fait, du jeu à force égale de gars qui en arrachent là, depuis plusieurs matchs. T'sais, Jonathan Drouin, Anderson. Même, je trouvais que Weber a plutôt quand même bien joué hier. Peut-être un Kulak. Donc, j'ai été plutôt encouragé, honnêtement, de ce que j'ai vu hier. T'sais, ce sont les joueurs sur lesquels il y a beaucoup de chaleur présentement qui ont quand même répondu à l'appel hier. Ce sont des joueurs même qui ont été identifiés par Ducharme ou Bergevin et qui finalement ont relevé leur jeu hier. Puis j'ai le goût de dire il était temps parce que présentement, cette équipe-là mise beaucoup sur Dano et Tatar là, pour connaître des succès. Mais je veux dire, les vrais stars de l'équipe, ce sont pas nécessairement juste eux. T'sais. Et c'est aux autres joueurs aussi de collaborer, pas juste aux joueurs de soutien. Mais je suis quand même content là, de voir... des joueurs improductifs dans les derniers matchs remontés un peu la pente.
Moi, j'ai bien aimé Byron avec Tatar et Dano.
T'Paul.
Moi, je l'aime, T'Paul. Tu sais, je sais qu'on le critique beaucoup. Il a été blessé au ballottage 3 fois cette année. Mais moi, je pense que Paul Byron est plus utile, pourrait être plus utile que ce qu'on a vu en début de saison. J'ai comme l'impression qu'en début d'année, quand on l'a mis sur le 4e trio, il s'est trouvé un peu perdu, ne sachant pas exactement trop quel était son rôle. Là, il joue avec des joueurs qui sont quand même, en général, responsables, travaillants. Byron, c'est le genre de gars comme ça qui va bien s'entendre avec ces gars-là. C'est pas une solution à long terme pour remplacer Gallagher, c'est sûr. Mais moi, je pense que c'est 3 gars qui peuvent s'entendre ensemble. Puis je pense que Byron peut connaître une bonne fin de saison s'il joue avec eux et peut-être même faire augmenter un petit peu sa valeur actuelle qui, on va se le dire, n'est pas très bonne.
Vas-y.
Non, j'allais juste dire, par contre, pour ce qui est d'augmenter la valeur, ça, j'y crois pas trop dans le sens qu'il va toujours rester pris avec avec ses 2 autres années de contrat à 3,4 millions. Donc ça, non. Mais t'as tout à fait raison que il y a une certaine utilité. Je pense que le problème aussi dans notre évaluation, Byron, c'est ça, c'est qu'on voit aussi le contrat quand on l'évalue, quand on évalue sa valeur. Tu sais, puis prends Paul Byron, mais lui un contrat à 2 millions au lieu de 3,4.
Il n'y a pas de problème.
Personne n'en parle. C'est juste que là, oui, c'est sûr qu'il est un petit peu payé cher pour ce qu'il apporte comme rendement, mais ça n'empêche pas que c'est un joueur de la Ligue nationale qui a sa place dans un top 12 d'une équipe adéquate et puis qui peut trouver sa niche comme il l'a depuis quelques matchs.
Moi, je crois pas qu'on doit, parce qu'on a, tu sais, puis évidemment, on fait 2 podcasts par semaine. On doit vous en parler. Tout le monde, on en parle à chaque jour du Canadien. On fait de la micro-analyse. Donc, on peut pas arriver et tirer une conclusion aujourd'hui après la performance d'hier de Paul Byron. Je pense que Paul Byron...
Il joue mieux, là, par contre.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a mis l'effort nécessaire avec un duo qui est le meilleur duo chez le Canadien présentement. Ouais. Tu sais, Philippe Dano, Thomas Tatar, excusez-moi, là, Gallagher est parti, eux ont continué, c'est à fond, Léon. Mais Dano joue du gros hockey. Tatar a marqué 2 fois. Tu sais, on les sent sur l'échec avant impliqués. Ce que Tatar faisait pas, d'aller prendre une position, exemple, si un premier qui est en échec avant, Dano, le deuxième, ça tardait toujours, donc la rondelle sortait rapidement du territoire. Mais là, Tatar est extrêmement vif là-dessus, avec Byron qui est rapide. Ça a créé plusieurs problèmes du côté des Leafs de Toronto. Mais là, le problème pour le Canadien, c'est qu'il faut refaire ça. T'as les Flames de Calgary 2 fois, t'as les Sénateurs. Après, tu t'en vas dans l'Ouest canadien, t'affrontes les Oilers, t'affrontes les Flames. Il faut que tu le fasses à chaque match.
Mais clairement, là, écoute, le Canadien... T'sais, ils diront pas ouvertement, mais si quelqu'un avait réclamé Paul Byron, on se serait pas plaint. Ok, on va le dire. Qu'est-ce qu'on fait avec Paul Byron à la fin de la saison si t'es pas capable de l'échanger, t'es pas capable de procéder à une transaction? Est-ce que c'est un gars, c'est un candidat à se retrouver peut-être à Laval ou avec un rachat de contrat?
Parce qu'ils vont vouloir
faire de la place sur la masse salariale.
Pas du tout, je vais
garder. Attends, il y a plusieurs joueurs qui risquent de partir à la fin de l'année, Jérémy. Il y a quand même des joueurs autonomes sans compensation. Il y a quand même Dano et Tatar qui sont les 2 meilleurs joueurs.
Ben, c'est ce que je dis. Non, mais on va vouloir les gars. On va vouloir essayer.
Et Stahl, écoute.
Non, mais je veux dire, ces gars-là, là, Tatar et Dano, j'ose croire qu'on va discuter avec eux pour essayer de voir si on pourrait pas faire quelque chose. Donc, c'est là que...
Encore là, on est le 13 avril. On est le 13 avril aujourd'hui.
Bon,
non, mais voyons comment eux vont compléter la saison. Voyons comment eux vont performer en série de fin de saison. Puis après, tu pourras prendre des décisions. Là, présentement, tu sais, hier, je reçois un texto. On faisait la ligne ouverte l'après-match. Je reçois un texto. Hey, mais Dano mérite enfin son contrat à 5,5 millions. Wow. Attendez une minute, on n'est pas rendu là. Il y a beaucoup de choses à prouver encore. Là.
C'est
il
sûr.
Mérite peut-être pas 5,5, mais il mérite un contrat parce que sérieusement,
clairement,
cette équipe-là, l'année prochaine, sans Stahl, mettons, puis Sadano, c'est quand même difficile à imaginer. Mais tu sais, je fais juste soulever à propos des joueurs autonomes. T'sais, j'ai regardé la production, mettons, des joueurs du Canadien depuis que Dominique Ducharme est en poste, parce qu'il y a des joueurs qui ont augmenté, il y en a qui ont baissé. T'sais. Et à force égale, là, les 5 meilleurs marqueurs de l'équipe à force égale depuis que Ducharme est là, c'est Philippe Dano, Tatar. Tous les deux deviennent joueurs autonomes. Après ça, Toffoli, Gallagher et Byron. Donc, il y a quand même de la grosse négociation là, qui s'en vient. Là. Puis, je suis quand même étonné de retrouver Paul Byron dans le top 5, à force des gars, depuis que Ducharme est là. Et surtout qu'il n'y a quand même pas beaucoup de temps de jeu. Là. Si on le compare, par exemple, à Nick Suzuki là, qui joue 18 minutes par match, ou même par rapport à Drouin qui en joue 17, lui en joue 12. Donc, tu sais, il est vraiment dans une bonne séquence à Paul Byron.
Ouais. Suzuki, en passant, a eu 13-44 hier. C'est la première. Tu sais, oui, de façon générale, il y a eu du bon temps de jeu, mais moi, son 13-44 d'hier m'a accroché un peu. Là. Je trouvais que c'était quand même bas comme chiffre. C'était inhabituel.
C'est une bonne chose.
Non, ben, c'est ça,
c'est une bonne chose parce que pour une fois, on y va au mérite. Jake Evans était sur les deux premiers trios. Paul Byron était sur le premier trio. Suzuki a joué moins. Si tu travailles pas, t'as pas de temps de glace. Et là, sauf que là, on amène Suzuki en avantage numérique. Il marque en avantage numérique. S'il marque pas en avantage numérique, ça se peut que son temps aussi en avantage numérique diminue. C'est ça l'histoire.
Sérieux, les gars, là, Suzuki, depuis que Duchamp est là, il y a 7 points, OK? Il y en a plus que ça. Mais je dis, il y en a 5 en power.
Ses buts viennent tous en avantage numérique. C'est tout ça, le même jeu en plus.
Mais
c'est
ça marche.
Non, mais ça fonctionne, exact. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas un problème, mais c'est vrai qu'à force égale.
Il y a moins de temps à 5 contre 5, c'est ça.
Ouais, exact. Puis, tu sais, disons qu'il donne pas nécessairement d'argument Duchamp pour l'utiliser davantage à 5 contre 5. Mais en avantage numérique, c'est clair que c'est force. Ouais. Exact. C'est force demeure, c'est force.
Bon, quoi penser du travail de Marc Bergevin avec les acquisitions de Staal, Merrill et Gustafsson? Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message hier soir. Là. J'étais en moitié endormi, mais il me dit ça me fait penser à l'année, il y a quelques années, là, où on avait ramassé 4-5 gars. Là,
oui, il l'a dit. Comment il s'appelait? Markusson. Dwight King.
C'est ça. On avait ramassé un paquet de gars, tu sais, qui devait pouvoir nous donner de la profondeur. Finalement, ça a rien donné. Moi, je vois ça un petit peu différemment, mais personnellement, je pense pas que Marc Bergevin pouvait en faire bien, bien plus là avec le budget qu'il avait. Écoute, moi, j'ai beaucoup blâmé Bergevin et Jeff Molson dans les dernières années parce que j'aimais pas de la façon dont les choses étaient gérées. Mais cette année, honnêtement, là, j'ai rien à dire. Je veux dire, cette équipe-là, pour moi, là, c'est l'équipe la plus profonde du Canadien qu'on a vue depuis des années. Je sais même pas jusqu'à où qu'il faut reculer pour trouver une équipe aussi, avec autant de profondeur. Donc, moi, pour moi, le travail en haut, il a été fait. Puis je pense que cette équipe-là sous-performe un peu comparativement à ce qu'elle est vraiment. Pour moi, le Canadien, c'est une des bonnes équipes. Ça devrait être une équipe top 10 de la Ligue. Ça, c'est mon opinion.
Je suis assez d'accord avec toi.
Top 10.
Je suis assez d'accord avec toi. Écoute, je l'ai déjà dit, je vais le répéter. La profondeur du Canadien est tellement creuse qu'on va trouver du pétrole dans pas long. ce qu'on a amené avec la date limite des transactions, Merrill puis Gustafsson, écoute, je pense que un des problèmes chez les Canadiens, c'est la capacité de bien sortir la rondelle dans son territoire. Gérer le temps dans le territoire défensif, c'est une problématique majeure. On l'a vu hier en deuxième période, les Leafs de Toronto mettent la pression sur les défenseurs du Canadien qui, eux, écoute, ils ont même pas de place pour paniquer. Ils peuvent pas acheter dans les estrades, ils sont même pas capables de lober. La bivitrée fait pas la job. Dans le jeu collectif, là, je parle des défenseurs, mais dans le jeu collectif, dans la zone du Canadien, c'est problématique. Là. Extrêmement problématique. Fait que là, un moment donné, en troisième, oups, ça sortait un peu mieux. Pourquoi? Parce que, puis regardez les revirements dans le match hier, je pense que le Canadien a donné 15 fois la rondelle aux Leafs de Toronto. Ça fait en sorte que, moi je vous le dis, là, selon moi, il y en avait au moins 10 fois que c'était dans le territoire du Canadien. Si on arrive à avoir des défenseurs qui ont un petit peu plus d'expérience, qui paniquent un peu moins avec la pression qui arrive, je pense que ça sera plus facile pour avoir un meilleur jeu collectif. Je dis pas que c'est l'histoire des défenseurs, mais c'est un meilleur jeu collectif pour être capable de sortir la rondelle.
Je comprends ce que tu veux dire, mais souvent les erreurs viennent des vétérans. Tu sais, quand je vois Weber, là, il coupait en avant de son propre filet.
Jeff Petrie, là, au niveau des revirements,
c'est pas drôle.
Là, c'était comme KO. Oh, attends une minute, là, je veux dire, il était supposé. Mais en tout cas, peu importe, là, on fera pas le procès de ça, mais.
Oui, faisons-le. Ah ouais, let's go!
Non, mais c'est vrai. Non, mais tu sais, quand tu dis à ton jeune, là, fais pas une passe en avant de ton filet. Puis là, tu regardes la game avec lui le soir, puis il dit, « Chien Weber, il en a bien fait une, lui. »
Ouais, mais c'est ça.
Là, tu dis, « Ouais, c'est vrai, t'as raison, maudite affaire. »
Vas-y, Alex.
Oui, vas-y. Ben, tu sais, ce matin, j'ai fait les différentiels là, de revirement. Tu sais, le Canadien est de très, très loin la pire des 4 meilleures équipes canadiennes. Là. C'est même pas drôle de la part des défenseurs. Puis, tu sais, John Merrill, là-dessus, ça va être une amélioration. Alors, c'est un joueur qui est plutôt mobile, qui dirige bien la rondelle. C'est pas quelqu'un qui perd souvent la rondelle. Tu sais, il perd la rondelle deux fois moins souvent que Petrie, Romanov et Edmondson. Par contre, Gustafsson, c'était la machine à revirement des Flyers. Là-dessus, je suis un petit peu moins optimiste que que Jérémy peut-être sur l'arrivée de Gustafsson.
C'est un bon passeur, mais pas seulement pour son équipe, c'est ça le problème.
Ah, ouais. Il est peut-être daltonien, on le sait pas.
Mais c'est drôle parce que dans le match d'hier, je regardais, à un moment donné, j'ai pris du temps pour regarder Mitch Marner. Et je vous le dis, là, d'après moi, Mitch Marner ne descend pas dans son territoire, en tout cas que très rarement. Ce gars-là, il vit en zone neutre et en zone offensive. Fait qu'il vit à la deuxième ligne bleue pour attendre une passe. Puis, tu sais, le fameux chip, là, on reçoit une passe, ouais. Chip, ça envoie ça dans le fond, puis là, en pleine vitesse, les joueurs des Leafs entrent.
Okay? Ils saignent. Ouais, on disait dans le temps.
C'est un saigneux. Bon. OK. Fait que donc, ça, c'est la structure. Puis là, écoutez, je dis pas ça de façon catégorique en disant j'ai observé ça et c'est la structure. Ce que j'ai vu hier, ça ressemble à ça comme structure. Mais là, tu sais, le Canadien n'a pas le choix de respecter Marner, puis il n'a pas le choix de respecter Austin Matthews, qui lui se promène comme une couleuvre un peu partout. Fait que donc, tu peux pas aller faire un échec avant aussi soutenu parce que tu es obligé de prendre conscience qu'il y a du monde en zone neutre. Tandis que quand le Canadien fait ça, quand t'as Drouin à deuxième ligne bleue ou à ligne rouge, Suzuki qui est à ligne rouge, ils s'en foutent eux autres. Ils s'en foutent carrément. Là. Écoute, ils mettent de la pression sur ces défenses. C'est pour ça que je te dis que quand je te parle de jeu collectif, il va falloir qu'on essaie d'éviter les Hail Mary comme on fait, puis juste y aller en rapidité en contre-attaque. Viens sortir la rondelle dans ton territoire, mais de façon collective, avec les deux défenseurs, avec les attaquants. Puis après ça, tu pourras générer de la rapidité en zone neutre. Mais sinon, tu vas rester, tu vas passer le match à tourner à gauche dans ta zone. Tourne à gauche. Tu sais, quand ça se met à tourner, là, ouais. Tout le monde joue au gardien de but. À un moment donné, dans une séquence, là, il y avait 12 goalers. Tout le monde a gardien de but.
Ben oui. Mais Alex, j'ai lu ton papier ce matin. Si ça fonctionne pas pour le Canadien cette année, disons que, je sais pas, ils se font sortir au premier tour et tout ça, est-ce qu'on pourra blâmer Marc Bergevin? Parce qu'il y en a plusieurs qui disent, cette année, là, si ça marche pas, Bergevin, c'est sûr qu'il perd sa job. Je pense pas qu'il pouvait bien en donner plus à cette équipe-là.
Moi, je pense que Bergevin va rester en poste. Je fais pas partie de ceux qui pensent qu'il va quitter si le Canadien se qualifie pour les séries, même si il passe pas au deuxième tour. Par contre, tu sais, je trouve que Bergevin fait beaucoup de bonnes acquisitions depuis 3 ans. C'est absolument vrai. Puis d'ailleurs, les joueurs qui tirent cette équipe-là vers le haut présentement sont les joueurs acquis dans les dernières années. Mais le Canadien paye encore et encore et encore pour les mauvais repêchages là, de 2010, mettons, à 2016, grosso modo. Tu sais, ça devrait être le cœur de l'équipe présentement et ça ne l'est pas. Et,
ouais.
C'est un peu plate, mais tu sais, on est tous contents de la performance de Toffoli, Anderson, ouais. De ce que Joel Edmondson a à l'équipe. Tu sais, on a peu de mauvaises choses à dire sur les nouveaux joueurs. Les joueurs qui ont beaucoup de chaleur sont les joueurs qui sont établis puis qui sont là quand même depuis longtemps. Puis c'est un petit peu ce que je trouve des fois décevant du Canadien, là, c'est comment je dirais ça? C'est comme les plaques sont rarement alignées. T'sais, il y a toujours, c'est comme des pistons. Il y en a toujours un qui est en haut puis l'autre qui est en bas. T'sais, c'est rare là, que tout soit un petit peu égal.
En parlant d'en haut puis en bas, oui, vas-y, je te laisse compléter. Ouais, vas-y là-dessus.
Ben, t'sais, je trouve que la fenêtre commence à rétrécir un petit peu. T'sais, on s'est beaucoup emballé à propos des jeunes joueurs de l'équipe, mais t'sais, ils produisent pas encore comme des réguliers, comme le font les meilleurs joueurs des autres équipes. T'sais, alors que les vétérans, eux autres, commencent à décliner. Les jeunes sont pas encore là. Donc, le groupe du milieu, des fois, t'es très inconstant. Des fois, c'est bon, des fois, c'est pas bon. Fait que, tu sais, oui, ultimement, Bergevin est responsable de la composition de ce groupe-là, mais c'est difficile de lui reprocher ce qu'il a fait cette année, tu sais. Mais je pense qu'on paye quand même pour les très mauvais repêchages, là, des années 2000.
Je suis pas mal d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Puis juste pour parler de la fenêtre, puis des pistons, des fois, un en haut, puis un en bas. Puis je pense que l'inquiétude que bien des gens ont, c'est que, on a un groupe au milieu qui est un bon groupe, Toffoli, Anderson et tout ça, c'est des gars qui sont dans la fleur de l'âge. On a les plus jeunes qui prennent un petit peu plus de temps qu'on pensait peut-être à se mettre en marche, mais c'est correct, ils font des pas vers l'avant. Et on a Weber et Price qui devraient être le cœur de cette équipe-là, qui eux s'en viennent vers la fin, puis on est en train de s'imaginer dans cette fenêtre-là, est-ce que les deux vont overlapper? Est-ce qu'on va avoir encore suffisamment de bonnes années de qualité de Weber et Price pour rejoindre le moment où ces jeunes-là vont mettre vraiment la pédale au fond pour avoir une équipe qui va avoir une chance de gagner la Coupe. Je pense que c'est l'inquiétude qu'on a tous un peu.
Ben oui, puis tu sais, c'est drôle parce que si on recule au début du fameux reset de Bergevin il y a 2 ans, puis à l'an passé, je suis pas convaincu que je suis pas convaincu que Marc Bergevin s'attendait. Je pense que les progrès de l'été passé en série dans la bulle l'ont peut-être. Est-ce que ça le fait réagir trop vite, plus vite que ce qui se pensait?
La COVID, le fait de ne pas avoir de spectateurs, le fait d'avoir à gagner un public au retour quand les spectateurs sont dans les estrades, ça, c'est un.
Ça
met de la pression, ça.
Ouais, tu sais, il y a des petits éléments peut-être qui ont changé parce que c'est sûr que quand on analysait ça froidement, disons, si on recule à l'automne 2018, on va dire, là, tu sais, donc, le Canadien venait d'obtenir Suzuki, mais qui joue encore dans les dans le junior, Kotkaniemi était recrue, tout ça. Je pense pas que tu pouvais dire à ce moment-là, le Canadien va être un contender en 2020-2021, tu sais. Puis là, ben, c'est ça, finalement, sont arrivés ces événements-là qui ont peut-être devancé le plan, mais on se rend compte que on avait peut-être raison il y a 2 ans de se dire, écoute, ça se peut que ce soit tôt un peu en 2021, ça se peut que les jeunes soient encore trop jeunes. Et ben, c'est ça, c'est un peu ce qu'on constate, là, qu'il faut pas s'attendre à ce que ces jeunes là soit la locomotive de l'équipe.
Mais la mentalité a changé, ça c'est clair, parce que si on était tant all-in que ça, je suis pas sûr que c'est Keke qu'on aurait repêché. On aurait peut-être repêché Kachuk au lieu de repêcher Keke.
Je la comprends. Donc, la logique en arrière de celle-là,
non, mais dans une logique de développement à moyen et long terme, ça se comprend, parce que tu dis, regarde, ce gars-là va assurément connaître du succès, mais ça sera plus long son développement. Ben,
moi, donne-moi le gars qui va avoir du succès le plus vite possible.
Parfait, numéro 1.
On n'a pas des plans dans 3 puis dans 4 ans. Là.
OK. Il y a une autre philosophie qui dit aussi, tu sais, Kachuk, c'est un gars qui prend de la place, qui prend du temps de glace, qui prend. Là, t'es à Montréal, t'es dans un club qui pourrait être ordinaire. Tu veux-tu avoir un gars qui prend beaucoup de place d'un club ordinaire? Tu sais, Keke était plus low profile. Tu dis, si mon développement est à moyen long terme dans 3-4 ans, peut-être que je peux me permettre ça. Bon, après ça, est-ce que c'était un bon choix? C'était pas un bon choix.
On voulait un joueur de centre.
On partira pas là-dessus. À ta question, là, je lis la question. Si le Canadien ne performe pas au niveau des attentes, pouvons-nous vraiment blâmer Marc Bergevin? Si on blâme pas Marc Bergevin, on blâme qui?
Moi, je blâme les joueurs.
OK, parfait.
Pour moi, cette année, la responsabilité est sur les joueurs si ça fonctionne pas.
Je suis d'accord avec toi à 100%.
Mais quel joueur?
Non, mais attends, Alex. Moi, je suis d'accord à 100% avec toi, Philo. J'ai aucun problème avec ça. T'as raison. Ça part souvent du vestiaire. Mais tu sais comme moi que c'est pas le vestiaire qu'on va blâmer. Ça va prendre un responsable de tout ça. Puis au courant, tu sais, 3 fois au courant des 5 dernières années, le Canadien n'a pas fait les séries. Après ça, a perdu en première ronde. Après ça, l'an dernier, a perdu en première ronde. On va dire 2e, mais a perdu en première ronde des séries aussi.
Deux séries qu'ils auraient dû rater.
Qu'ils ont eu par la chance. Fait que là, cette année, si tu te fais sortir au premier tour, contre Toronto, la plus grosse équipe au monde, je m'en fous, là. Tu te fais sortir au premier tour. Si Bergevin garde son boulot, moi, je comprends pas le principe de la business de résultats. Parce qu'on dit tout le temps que c'est une business de résultats. Il y a de la grogne. Les gens attendent depuis longtemps. Je te rappelle, 3 fois au courant des 5 dernières années, le Canadien n'a pas fait les séries. À partir de là, si lui ne paye pas le prix pour ça, qui va payer le prix?
Non, mais écoute, moi, je pense que s'il avait à le payer, c'est dans les années où, justement, il y a eu des années de vache maigre où on n'a pas mis la pédale au fond en tant qu'organisation. Mais présentement, je regarde l'alignement du Canadien, là. Regarde cet alignement-là, là.
Ouais, mais c'est partout ça dans la Ligue nationale. Il y a tout le temps quelqu'un qui met un bon club. Michel Therrien avait un bon club. Il s'est fait sacrer dehors. Non, l'autre est arrivé puis il a gagné la Coupe Stanley avec.
Je peux pas me souvenir. Je pense qu'il faut retourner à 93 pour avoir une équipe aussi profonde que celle de cette année. Il y a rien d'extraordinaire. Mais si tu regardes tous les gars...
Fais attention, en 2014, ils ont quand même eu des saisons de 100 points plus. Là.
Mais encore là, t'avais des suspects...
Il y en a encore des suspects aussi, là, je dirais.
Oui, mais les suspects, écoute, ils sautent leur tour occasionnellement aussi, ils sortent dans les estrades.
Excuse-moi, on peut en parler jusqu'à demain d'Eric Staal, mais c'est quand même suspect. Là. Le gars, il est à la fin de sa carrière. Corey Perry, c'est une histoire d'amour, c'est cool, mais il est quand même suspect à la fin de sa carrière. Il y en a plein comme ça. Là. Si ça marche, c'est heureux. Si ça marche pas, on va dire, il y avait un
t'as assez de gars dans cette équipe-là. Pour moi, là, moi, je serais pas surpris que cette équipe-là, si le Jello pogne au bon moment, là, mettons, t'arrives dans les séries, puis Jello pogne, là, il peut faire un bon bout de chemin.
Moi, j'ai pas de doute. Je pense qu'ils vont sortir de la division canadienne. Moi, je pense qu'ils vont sortir de la division canadienne. Ça, c'est mon opinion. Ils vont sortir de la division canadienne.
Je pense pas qu'ils vont sortir de la division canadienne, mais
je serais pas surpris. Je
serais pas surpris. Non, mais je serais pas surpris parce que tu regardes les gars dans cet alignement-là, là, puis tu penses à Toffoli, Petrie, Tatar, Nick Suzuki est jeune, il peut à un moment donné pogner en feu au bon moment. Brendan Gallagher, pas besoin de le dire. Drouin, on connaît son talent, même s'il y a juste 2 buts. Josh Anderson, on sait qu'il peut nous aider. Philippe Dano, on sait qu'il va tout donner. Weber a quand même de l'expérience. T'as des gars comme Perry qui ont de l'expérience. Écoute, tu peux faire le tour du line-up, là, puis tu peux
trouver
des...
C'est un bon club de hockey.
sais, c'est ça.
C'est un bon club de hockey. Mais là, on se parle de supposition. On dit si ce n'est pas à la hauteur des attentes. En fait, les attentes, c'est quoi? Moi, je pense que pour s'assurer que tout le monde soit heureux, il faut que le Canadien sorte de la division Nord. Là, on va faire, ah, regarde, ils ont fait la job. Si tu te fais sortir au premier tour, ça marche pas. Au deuxième tour, ça va falloir avoir des bons arguments.
Ça va dépendre du genre de série qui...
Je pense honnêtement qu'une présence au deuxième tour... tu perds contre Toronto, on va dire, qui est très, très all-in, là, on s'entend.
Mais ça arrivera pas. Ça Toronto 1, Canadien 4, ça va être un 4.
Là. Ouais, mais ça, en tout cas, ça a quand même encore le temps de bouger à quantité de confrontation entre les équipes, tout ça. Donc, tu sais, en tout cas, moi je pense que c'est ça. Tu gagnes une série, tu te fais battre contre Toronto au deuxième tour, ça se défend. Mm-hmm. Maintenant, tu te fais sortir au premier tour. Après, Marc Bergevin qui arrive au début du camp et qui dit We mean business.
La tête, ça bûche, les attentes sont élevées.
Je pense que, tu sais, il faut.
Julien a dit, je vois pas pourquoi qu'on peut pas aller jusqu'au bout. Souvenez-vous, ça, c'est en début d'année. Là.
Non, mais là, tu sais, t'as eu une semaine perdue à cause de la COVID. T'as eu un calendrier qui a été.
Il y en a eu des semaines perdues à cause de la COVID dans la ligue.
Oui, 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 je comprends, mais c'est pas toutes les équipes qui ont dû vivre ça.
Il y en a beaucoup.
Mais mon Dieu, Julien, t'es rendu gentil, toi.
Moi, je dis ce que je pense. C'est pas une question d'être gentil.
T'es doux, là.
Je dis ce que. C'est pas une question d'être doux.
On parle-tu de Carey Price?
Ben, ça, c'est une autre histoire. Là, tu vas me craindre. Okay. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui me fait peur, c'est la séquence du mois qui s'en vient, avec le nombre de matchs qu'ils vont jouer. Là, j'espère qu'avec le garde, Stahl est arrivé, Merrill est arrivé, Gustafsson est arrivé, et on a le Otto Leskinen, on peut faire de la... Charotte s'en vient. Garde, écoute, il y a des gars pour faire des rotations, mais si on fait pas ça, les gars, je vous dis, ils vont être brûlés. Parce que les Maple Leafs sont pas un calendrier aussi chargé que celui du Canadien. Ils ont eu quelques matchs déplacés, mais...
C'est en train de me dire que là, Dominique Ducharme, il parle avec Rémi Garde puis ils font pas de rotation de l'effectif, c'est ça?
Ben, non, mais je vous dis, les gars, si on trouve pas le temps...
Non, mais je veux juste faire la référence, c'est que Philo, tu disais souvent Rémi Garde à l'époque, quand il était coach de l'Impact, il y avait pas de rotation de ses joueurs. Oui. Mais t'as raison de dire que il va falloir aussi penser à ça.
C'est sûr.
Mais il faut que tu gagnes des matchs pour te créer encore plus de distance, pour être capable de prendre ça.
L'avantage du Canadien, c'est qu'à la fin de tout, là, au mois de mai, il va quand même mettre une semaine sur frère, il jouera même pas. Donc, la semaine où les matchs contre les Canucks vont être repris, parce que le Canadien a déjà joué, le Canadien va quand même avoir un bon break juste avant de rentrer dans les séries, ce qui est quand même avantageux là, pour lui.
Est-ce qu'on a des informations confirmées pour les Canucks et qu'est-ce qui va se passer avec eux autres? Je sais qu'ils reprennent l'action vendredi soir contre Edmonton, mais
là,
après ça...
Ça a été repoussé hier, là.
Ça a été repoussé encore?
Oui, bien hier, dimanche...
Il devait recommencer dimanche. Il devait recommencer dimanche, c'est ça, puis ça a été repoussé
au lendemain.
J'ai peur de mélanger dans mes journées, mais vendredi, le nouveau calendrier est confirmé. Là,
vendredi, ils jouent. C'est quoi après ça? C'est quoi? Ça s'étire jusqu'au...
Ben eux, ils jouent jusqu'au 16, comme c'est là.
OK, parfait.
Sauf que les deux derniers matchs, les matchs du 15 et du 16, c'est contre Calgary. Donc là, si les deux équipes sont éliminées, ben ça empêcherait pas la Ligue nationale de commencer les séries. De toute façon, la Ligue a déjà dit aussi que les séries dans les autres divisions pourront commencer même si la saison dans la division canadienne n'est pas finie. Mais c'est ça. Donc, si Calgary et Vancouver sont éliminés, ben le dernier match des Canucks qui compterait, ça serait celui du 13 mai contre Edmonton.
Okay.
Donc, ça, il faudra voir, mais disons que c'est toutes des choses qui peuvent encore bouger.
Juste une petite note. Hier, ça a été confirmé par le directeur général, Marc Bergevin, que dans le cas de Gallagher, il faut l'oublier pour la saison régulière. Donc, on va espérer qu'il reviennent le plus rapidement possible pour le début des séries. Ben Sherratt, normalement, là, c'est au jour le jour, mais peut-être que d'ici la fin de la semaine, on va le voir dans l'alignement. Et Carey Price, on n'a pas eu de nouvelles. C'est un peu bizarre la réponse hier de Marc Bergevin.
Non, mais Ducharme m'a confirmé le soir, mercredi, en bac sa patinoire.
OK.
Donc, mercredi.
Mais en bac sa patinoire, mais il ne jouera pas, par contre.
Exact.
OK, donc il va patiner mercredi matin. Fait que tranquillement, pas vite.
On va voir la suite des choses. Ducharme me dit, tu sais, vendredi, samedi, vas-tu jouer? On ne sait pas. On va voir comment ça. Ils vont faire des tests, ils vont voir comment ils réagissent, puis après ça, ils vont prendre des décisions en conséquence.
Bon, au chapitre là, des réponses qui n'ont pas été trop claires là, pour ce qui est de Marc Bergevin, hier, il y en a eu une sur. Juste une question sur Cole Caulfield, à savoir, tu sais, c'est quoi le plan avec lui, étant donné qu'il y aura une semaine de congé pour le Rocket, même plus qu'une semaine et tout ça. Et là, il a dit, j'ai pas d'informations, je ne sais pas, il n'y a pas de plan pour ça. Fait que là, on était OK. Est-ce que, dans le fond, il voulait juste pas donner espoir à Caulfield tout de suite qui serait rappelé?
Ah,
est-ce qu'il voulait
ça
pas?
Ça n'a rien à voir avec Caulfield. Moi, je pense que c'est avec le monde.
Ou à la foule. Ouais. Ou... Parce que la manière qu'il a répondu, c'était même pas écoutez, on a encore un petit peu de temps pour penser à ça, on va vérifier ou on va checker ça, on étudie ça. C'était je sais pas, j'ai pas d'information là-dessus.
C'est un peu bizarre qu'un DG dise je le sais pas puis j'ai pas l'information. C'était assez particulier. Dominique Ducharme, ce matin, a répondu ce que Bergevin aurait dû répondre hier.
Et
c'est une réponse qu'on a déjà entendue de Bergevin lui-même, de Joël Bouchard aussi à propos d'autres joueurs. Et le message étant essentiellement, il n'y a jamais aucun joueur qui est resté trop longtemps dans la Ligue américaine. Tandis que l'inverse est vrai, il y a des joueurs qui ne sont pas restés assez longtemps dans la Ligue américaine ou du moins qui sont arrivés trop vite dans la Ligue nationale. Puis ça, on le sait, on l'a vu cette semaine, Victor Mété, ça a peut-être été un cas qui est avec le recul, on dit qu'il est peut-être arrivé trop vite dans la Ligue nationale. Mais bref, c'est ça. Donc, c'était la réponse à Ducharme au sujet de Caulfield. Puis, ben regardez, il a tout à fait raison. Maintenant, c'est vrai que le Rocket va avoir une pause de 10 jours dans son calendrier. Ça semble logique que c'est une belle fenêtre pour rappeler Caulfield. Mais disons que Ducharme l'a quand même très bien expliqué. Puis, c'est très correct. Puis,
je pense que ça va. Les performances à l'attaque du Canadien vont beaucoup dicter cette.
Penses-tu?
C'est pas mal convaincu. Non, mais si on joue comme on a joué samedi de la semaine
Alex,
passée.
Alex, tu penses pas, toi?
Ben, moi, je vais y aller avec une réponse de boss, là. Je vois pas comment il aurait pu dire tout de suite, oui, Caulfield va être là la semaine prochaine. T'sais, ne serait-ce que pour garder une chimie qui me semble fragile, là, présentement chez le Canadien, là.
Ouais.
T'sais, tu dis d'avance à tes joueurs de qui présentement t'exiges un meilleur effort. Bon, les gars, la semaine prochaine, il va y avoir un nouveau gars qui va venir rentrer dans le top 9. Les lignes vont bouger.
Ouais.
Ça se peut que vous perdiez vos avantages en avantages numériques, tu sais. Écoute, sérieusement, je le vois pas dire ça tant que tu te rends pas à la rivière. T'sais, mettons que tu dis ça aujourd'hui, Caulfield se blesse cette semaine. T'as l'air complètement ridicule de le dire.
Ouais.
Fait que moi je comprends tout à fait qu'il ne dise pas tout de suite, puis le jour où ça va arriver, il va le rentrer dans l'alignement. Les autres joueurs, les coéquipiers vont être placés devant le fait accompli. Mais tu lui donnes pas un poste tout de suite une semaine ou deux semaines à l'avance, sachant tout ce qui peut arriver, des blessures.
Je pense que c'est juste de la façon dont il s'est exprimé que c'était un peu
bizarre. Je pense que c'est l'amalgame de l'enfantillage, honnêtement. C'est de l'enfantillage. Là, il veut pas que les gens prennent panique avec Cole Caulfield. Il veut pas que les gens prennent panique avec Carey Price. Il veut tenter de contrôler le message. Mais tu sais, à un moment donné, moi, là, l'enfantillage, j'ai pas 8 ans. Tu es capable de me dire, Cole Caulfield, il est dans la Ligue américaine et quand on va décider que c'est le temps de le monter, il va arriver avec nous autres avec grand plaisir. C'est tout. On n'a pas besoin de rien dire de plus. Dis-nous ça, c'est tout. Ouais. Arrête de me dire nous hey, arrête là.
Non, mais où on a c'est encore quelques vrai. Semaines devant nous.
Non, mais c'est ça. Il aurait pu mieux répondre. Mais regardez, ça arrive. C'est des conférences de presse en direct qui sont mis un peu sur le spot, donc ça arrive. Moi, ce que je serais curieux de voir pour Cole Caulfield. Le Taxi Squad donne des belles possibilités aux Canadiens cette année. Puis oui, on en parle souvent à cause de ce que ça permet de faire sur le plafond salarial, mais t'as une belle occasion aussi dans ce cas-ci pour le développement des joueurs. Le Rocket joue jeudi le 15, ensuite de ça, dimanche le 18, et ensuite de ça va au 30 avril. Donc, c'est ça la période de 11 jours dont je parlais. Le Canadien, le 18 avril, part dans l'Ouest pour 5 matchs. Edmonton 2 fois, Calgary 3 fois. Il n'y a rien qui t'empêche
de l'amener sur le voyage.
Voyage comme membre du Taxi Squad.
Romanov a fait ça pendant les séries l'année passée.
Ben,
il
n'a
pas joué un match, mais il était là, il a pratiqué avec l'équipe tout le temps. Juste connaître les gars, juste voir.
Tous ces jours-là, de toute façon, ça va être des jours d'entraînement. S'il reste avec le Rocket, ça va être de l'entraînement avec le Rocket. Pourquoi tu l'amènes pas? Tu vas pouvoir le voir à l'entraînement contre des joueurs de la Ligue nationale. Tu le laisses sur le Taxi Squad. Si t'as un gros boubou pendant le voyage, si t'as deux attaquants qui se rentrent dedans puis qui se blessent, ben il est là, tu peux le rentrer. Puis sinon, ben c'est pas grave, il y aurait eu une semaine à s'entraîner avec le gros club, à voir c'est quoi la vie sur la route, à voir, tu sais, c'est vraiment une occasion. Puis le Canadien revient le 27, donc tu sais, si rendu là, tu dis on faut continuer à jouer dans la Ligue américaine, ben tu le retournes au Rocket, puis il aura pas mangé, il aura manqué un match, ça serait le match du 18.
Bon, ben écoute,
et le pire c'est que vu que t'es sur la route, il n'y a pas de journalistes qui sont à côté de toi parce qu'on est en temps de pandémie. Habituellement, tout le monde aurait suivi Cole Caulfield. Pratique du matin, on le filme, on le regarde, on l'interview. Non, même pas. Il n'y aura pas personne. Tu vas garder ça tranquille pour toi-même. La vie est belle. Profites-en. Amène-les. Il fallait connaître les gars tranquillement, pas vite. Puis retourner, à la limite, comme Jean-François dit. Comme Guillaume dit, Jean-François, excuse-moi. Comme Guillaume le dit, à partir de là, t'as fait un premier contact. Puis c'est ça qu'on a besoin chez Canadien.
Bon, les gars, un dernier dossier là, avant de passer à ce qui se passe ailleurs dans la Ligue nationale. Selon certaines rumeurs, le Canadien aurait tenté de convaincre les Rangers de s'entendre à l'amiable avec Tony DeAngelo pour que ils mettent fin à son contrat, dans le fond, mutuellement avec l'organisation pour que le Canadien puisse le signer. Donc, ils avaient un intérêt pour lui, mais le joueur a décidé de refuser cette alternative-là, préférer voir son contrat peut-être être acheté d'ici la fin de l'année et se déclarer joueur autonome à l'été. Ça nous a pris un peu par surprise. C'est une information qui est sortie, je crois, tardivement hier en après-midi, une fois que la date était déjà passée.
En fait, c'est sorti une demi-heure après la conférence de presse de Marc Bergevin.
C'est ça.
Je vais toujours me souvenir de ce timing-là parce que, mon Dieu, que ça épargnait à Marc Bergevin une couple de questions inconfortables à son point de presse.
Mais
une demi-heure après.
Vous trouvez ça bizarre?
Non, moi, je vais entendre les gars là-dessus en premier.
Moi, j'aimerais vraiment surtout entendre Marc Bergevin là-dessus.
Oui, c'est ça.
Je vais être super franc, tu sais, je suis moyennement à l'aise de commenter ça dans le sens... Ben, tu sais, je pense que ça serait absolument stupide là, d'amener Tony D'Angelo à Montréal, mais honnêtement, je pense que les questions sont à Marc Bergevin là-dessus. Est-ce qu'il y a eu un flirt, oui ou non? C'est clairement un joueur qui est toxique, là. Je veux dire, de tout ce qui a transpiré chez les Rangers, c'est absolument pas le genre de joueur qu'habituellement Marc Bergevin aime. T'sais, Marc Bergevin revient souvent sur ce qu'il aime, il appelle ça un joueur de hockey. C'est comme un serpent sonnette. T'en vois un, tu le sais que c'est ça.
Ouais, mais il aime les repas. Il aime les repas.
Son modèle, c'est chez Weber, je veux dire, c'est Carey Price. C'est Jeff Petrie. Sérieusement, Tony D'Angelo ne cadre pas du tout avec ça. Fait, moi, personnellement, mais toi, je te dirais avant de faire un 20 minutes là-dessus ou de faire une chronique là-dessus, j'aimerais vraiment connaître la réponse de Bergevin.
Mais Alex, Marc Bergevin aime beaucoup les repentis. Souviens-toi, Zach Cation, ben oui. On les aime quand ils viennent avec...
La dernière chance.
Ouais, tu sais, quand ils viennent avec le Takeba un peu, puis qu'ils sont piteux, puis viens, on va te donner une autre chance. Il n'y a pas ça.
Le Canadien, non. Je fais juste souligner aussi que le Canadien ship quand même toujours ses joueurs difficiles.
Les joueurs à problème.
Les employés difficiles, le Canadien ne les garde pas. Il les échange systématiquement depuis 20 ans.
En tout cas.
Sérieusement, c'est absolument pas le genre de joueur que le Canadien aime avoir habituellement. Pas de joueur. Mais...
Non,
c'est
moi
pas
je...
le genre de personne que le Canadien aime avoir habituellement dans
exact.
Son
Exact. Ça, c'est le genre de cas où je verrais David Poile à Nashville, par exemple. David Poile, lui, il va avec ces cas-là un peu problématiques. Il était avec James Neal, il était avec Piquet Souban. Il est prêt à parier sur des gars, justement, dont la personnalité a pu poser problème ailleurs. Alors, lui, je le verrais, mais...
Mais tu sais, t'as un vestiaire qui est quand même assez solide, là. Tu sais, t'as des gars, t'as Weber, t'as Price, t'as Chiarot, t'as Corey Perry, Eric Staal. Tu sais, t'as des gars qui sont capables de placer le kid aussi, là, pour dire, hey, regarde, détends-toi.
Il y a des équipes qui sont plus promptes à ça. Je me souviens, les Expos baseball, ils étaient bien bons, ça, pour aller chercher les repentis. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui ont fini en prison.
Non, mais je regarde.
Le Canadien, ce n'est pas ce genre d'équipe. Le Canadien, c'est vraiment une équipe qui a de la difficulté à contrôler les éléments difficiles. Puis c'est historique. Là. C'est, je parle pas là, depuis 5 ans, là. C'est historique. Là,
Alex,
des gars comme Galchenyuk, Domi, le Canadien a de la misère à les gérer. Là.
Shane Carson.
Non, mais le CF Montréal, là, cette année, là, ils sont allés chercher 10 nouveaux joueurs. Il y en a à moitié là-dedans. Que si tu fais des petites recherches Google.
Ah, ouais.
Ben, je pense, Alex, c'était même toi qui en avais découvert un à un moment donné, non?
Ouais, sur Bjornsson.
Bjorn Johnson, ouais. Alex faisait ses recherches. Ouais, c'est qui ce gars-là? Puis là, bon, je sais pas, une arrestation, je me souviens plus trop quoi.
Ah, il s'est battu avec son coach.
Ah, il s'est battu avec son coach.
Son coach l'a mis dans un taxi à la mi-temps pour qu'il retourne à l'hôtel.
Non, mais vrai?
La moitié des gars qui ont ramassé, c'est des gars qui ont des historiques dans la même. En tout cas, regarde, qu'est-ce que tu veux? Quand le GM dit on cherche des joueurs.
Ah, oh, c'est une belle jeunesse que nous avons.
Bon, c'est quoi qu'il avait dit? Nous cherchons des joueurs à bon marché.
À bon marché.
On s'arrête le temps d'une courte pause. On va parler de ce qui se passe ailleurs dans la division canadienne. Alors, voir maintenant ce qui se passe ailleurs dans la division canadienne. Les Sénateurs, hier, ont mis la main, entre autres, sur Victor Mété du Canadien. On n'a pas parlé dans notre segment sur le tricolore, mais Mété, hier, une journée complètement folle. J'ai écouté son point de presse hier, après le match. Je sais pas si vous avez eu la chance de l'entendre. Écoute, à midi, il apprend que les Sénateurs l'ont réclamé. Là, ramasse tes affaires, appelle ta femme. Ah ouais, let's go, pack les affaires. Ramasse la valise à la maison, on embarque dans le char, on s'en va à Ottawa, pas de dodo d'après-midi. Ah ouais, ça glace, tu joues ce soir. Une journée de fou, vraiment, pour Victor Mété. On va-tu... il a juste 22 ans. Hein? Hier, quand il l'a dit dans le point de presse, il a dit, vous savez, j'ai seulement 22 ans. Est-ce que c'est un gars qu'on a échappé? C'est-tu un gars que...
Arrête, on va s'en reparler dans un an, mais...
Pantoute. Non, mais c'est un excellent patineur. C'est ça l'histoire, c'est qu'un... Moi, ce gars-là, il va être une... Je veux pas être méchant, là. Mais il sera une méga vedette en Suisse un moment donné. Tu comprends-tu? Mais dans la Ligue nationale de hockey, ça te prend un lancer. Faut que tu sois capable de pas juste passer la rondelle, mais faut que tu sois capable de marquer, de lancer au filet. Puis ce gars-là n'a pas ça.
Mais il y a un bon patin, mais il y a rien d'autre d'assez... Ça y prendrait un autre
atout. Ça y prend son lancer. Il n'y a pas de lancer. Je veux dire, ça devient tellement prévisible. Il va lancer ça dans Beden du gardien. Ça devient prévisible. Et là, après le match, écoute bien, après le match, je te dis que tu as écouté son point de presse.
Ouais, j'ai écouté.
Moi, il y a quelque chose qui m'a fait monter le poil ses bras un peu. J'ai vu ça sur Twitter rouler après. Alors, on lui a demandé qu'est-ce qui n'a pas marché avec, avec Montréal. Il dit rien n'a pas marché. Il n'aimait pas mon style de jeu et ça ne cadrait pas dans le système.
Ça ne cadrait plus dans le système.
Attends une minute, là. Mais il est où le style de jeu à Victor Mété? C'est quoi? Expliquez-moi, c'est quoi son style de jeu? C'est ordinaire, là.
Hockey européen, là.
Ça marche pas du tout. Puis, je veux dire, on l'a vu en plus. Je veux dire, le Canadien, je pense, aurait vraiment aimé avoir un autre défenseur offensif fluide, capable d'aider l'attaque, capable de jouer en avantage numérique. Mété a même eu, d'ailleurs, par moment, des chances en avantage numérique. Je veux dire, il a eu ses chances, ça marche pas parce que il a un style offensif, mais il est pas assez bon dans son style offensif, il n'y a pas des qualités assez dominantes. Donc,
Raphaël Diaz, mais plus petit.
Non, mais Diaz, il lançait. Toujours bien ça.
Il
lançait au filet.
Ben, en fait, moi, Mété, c'est drôle.
Mark Strike, mais en moins bon.
Quand j'ai vu qu'il était au balotage, ça m'a rappelé la déclaration de Marc Bergevin qui a dit, tu sais, des gars comme ça, on dit qu'ils sont des bons patineurs comme ça, mais qui ont peut-être pas nécessairement tout le temps non plus meilleur sens de hockey. Tout ça, on dit c'est les premiers à aller à mauvaise place, tu sais. Puis ça, des fois, ça me faisait penser. Mais tu sais, au-delà de ça, c'est le simple fait aussi qu'il y avait de la misère à défendre, tu sais, dès qu'il y avait des un contre un, ça devenait...
Ça, c'est un gars on a fait sauter directement dans la Ligue nationale.
Ben c'est ça.
Gracieuseté de Marc Bergevin.
Ben, ouais, en tout cas.
Résultat de
Marc
Bergevin qui avait laissé
éclairer tout le monde, tous les défenseurs.
Ouais, on s'en souvient.
Ben, c'est ça.
Victor Mété n'avait pas d'affaires à faire le saut de la Ligue nationale.
Tu te souviens, là, il y avait Beaulieu, Markov, il y avait qui aussi?
Emeline. Sergachev.
Tu avais quatre défenseurs, il a décidé qu'il avait plus besoin de ces gars-là, puis ça nous a amené Victor Mété qui joue avec chez Weber. Tu sais, je veux dire, en quelque part, là... Je sais pas si tu dis que ça vaut la peine qu'on continue.
Et Carl Osner.
En parlant de directeur général, à Toronto, on a fait quand même certaines acquisitions. Nick Foligno, on se retrouve maintenant avec trois joueurs qui ont déjà porté le C à un moment donné dans leur carrière. John Tavares, bien sûr, présentement chez les Maple Leafs. On peut ajouter Jason Spezza, Joe Thornton, mais aussi Nick Foligno maintenant, qui est quand même un excellent joueur. Et on peut s'attendre à ce que Foligno soit extrêmement utile en séries éliminatoires. Est-ce que les Maple Leafs en ont suffisamment fait pour se garantir? Tu peux pas garantir, parce que même le Lightning, il y a deux ans, pensait être garanti, puis ils se sont fait sortir en quatre, mais... Je veux dire, je pense que les Maple Leafs n'ont jamais été aussi près de la Coupe Stanley que 93, peut-être. Alors qu'ils se sont fait sortir par les Kings.
Ils ont une solide équipe. Là, moi, je l'ai trouvé que l'acquisition de Nick Foligno, c'est très,
un
très
beau
fort.
Complément.
Le danger va toujours rester devant le filet. Là. On ne sait toujours pas. Anderson, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il y a. Là.
Mais là, si on était chercher Rittich, on a Campbell. Là. C'est pas parce qu'Anderson va revenir rapidement.
Non, c'est ça. Puis on a dit qu'on allait...
Il gardait vraiment pas bien les buts là, récemment. Là. Donc, mais sinon, écoute, en avant, en attaque, c'est absolument spectaculaire. Là. Honnêtement, quand tu te permets d'aller chercher Nick Foligno puis de le mettre dans ton alignement, c'est le genre de joueur qui fait une différence à la date limite des échanges. Et c'est pour ça que j'ai de la misère ou je tempère mon optimisme envers les chances du Canadien de passer au travers de la division canadienne et peut-être même du premier tour s'ils affrontent les Maple Leafs. C'est toute une machine.
Tempérer ton optimisme, ça veut dire quoi?
Tempérer mon optimisme, ça veut dire être moins optimiste que toi.
OK. Alors, est-ce qu'on peut faire la différence entre être optimiste et être réaliste? OK. Moi, je vais vous dire pourquoi, d'un côté réaliste, selon moi, le Canadien peut battre les Leafs de Toronto en série.
Il peut.
Pourquoi, selon moi, d'une façon réaliste? Je pense sincèrement que, tu l'as dit, il y a un point d'interrogation majeur devant le filet chez les Leafs de Toronto. Oui, Campbell a gagné des matchs d'une façon consécutive en saison régulière. On est en saison régulière. Comment il va agir en série de fin de saison? Point d'interrogation. Rittich avec les Calgary qui s'amènent là, point d'interrogation également. Pas Josh Anderson, mais Frédéric Anderson, point d'interrogation également. Maintenant, Autre point d'interrogation. Je pense que Foligno, vraiment, là, c'est un coup de maître. C'est un coup de maître, ce gars-là. C'est une machine de hockey.
Il est d'ailleurs très heureux de se retrouver là.
Ça va être difficile. Vous avez raison, ça va être difficile pour le Canadien. Moi, là, mon point d'interrogation. Auston Matthews. Quand tu marques pas de but, que c'est que tu fais ça à glace? Et ça, Auston Matthews, pour moi, c'est une question.
Ah, non, mais attends. Il y en a 32 présentement. C'est rare qu'il n'y en mette pas
de but. Va-t-il en mettre 32 dans les séries? Non, la réponse, c'est non, parce que dans série... c'est que dans série, le hockey est complètement différent. Les arbitres pognent des petites boules dans le sifflet, puis hop, ils les enlèvent. Ça ne siffle plus. Fait que donc, c'est du solo de Sherwood, à gauche et à droite. Puis si Auston Matthews est surveillé de près, qu'est-ce que lui va amener à son équipe? Qu'est-ce que Mitch Marner amène à son équipe quand il ne marque pas de but? Pour moi, c'est là où le Canadien est capable de se signaler. Pas facile, mais capable de sortir Toronto.
Non, écoute, moi, je pense que le mot-clé là, dans la phrase, c'est le Canadien peut battre les Maple Leafs. Les Maple Leafs devraient battre le Canadien. Donc, c'est
logiquement,
ça.
Oui.
Logiquement, c'est ça, exactement. Mais outre Toronto, les gars, on peut pas dire que dans la division canadienne, on s'est beaucoup amélioré. Edmonton n'a pas vraiment beaucoup bougé. Les Jets, j'ai été déçu. Calgary, on peut comprendre que, bon, eux autres, ils se disent déjà à l'an prochain.
C'est
mais...
ça, exactement. Moi, je trouve que c'est le bout d'information le plus intéressant dans la division. C'est que ce qu'on voyait au classement, c'est confirmé dans les mouvements de personnel. Tu parles des Flames, puis bon, les Flames, ça devenait de plus en plus évident parce qu'en plus, ils ont joué beaucoup de matchs. Donc, eux, c'était clair. Puis là, c'est ça. Ils sont Sam Bennett parti, David Rittich parti. Et puis, les Canucks de Vancouver aussi. Eux aussi ont quand même échangé Adam Gaudette, qui leur faisait un travail honnête dans le top 9. Ont échangé Jordy Benn, qui était leur profondeur en défense. C'est pas des transactions d'une équipe qui pense à participer aux séries. Donc, tu sais, je pense que ça, la journée d'hier a vraiment confirmé la séparation qu'on voit au classement. C'est la preuve que les DG à Calgary et à Vancouver voient les mêmes choses que nous au classement, là, puis ils iront pas pour un dernier push.
On s'arrête là-dessus, les gars, et au retour de ceci, on va parler de ce qui s'est passé ailleurs dans la Ligue nationale à l'extérieur de la division canadienne. Voilà de retour pour le dernier segment de l'émission d'aujourd'hui. Écoutez, on n'a pas pris de questions du public étant donné qu'on avait tellement de matière avec la date limite des transactions, mais discutons de ce qui s'est passé un peu ailleurs dans la Ligue nationale. Les Capitals ont payé le gros prix pour aller chercher Anthony Manta. Ils ont donné Jakob Vrana, Richard Panik, ainsi qu'un choix de première et de deuxième tour aussi. Manta, on va se le dire, c'est sûr qu'avec les Red Wings, c'est pas facile, c'est une équipe en reconstruction et tout ça, mais entouré par les joueurs qu'on va lui offrir à Washington, est-ce que Anthony Manta peut être un gars qui éventuellement, on va dire, malgré tout ce qu'on a donné, ça a été une bonne acquisition, ça a été une bonne transaction? C'est rare aujourd'hui qu'on voit des transactions
moi,
de ce type-là.
Oui. Je pense que les Capitals de Washington vont trouver le moyen de faire fonctionner Anthony Manta. Pourquoi? Parce que le punch à l'attaque est tellement bon chez les Capitals, puis ça va pas reposer sur les épaules d'Anthony Manta. Je trouve sincèrement que Blashill, avec les Red Wings, a lancé à plusieurs reprises Anthony Manta sous l'autobus, publiquement. Tu sais, est-ce que Manta, c'est le meilleur joueur dans les trois zones? Non, je pense pas. Est-ce que c'est un gars qui est capable de la mettre dedans? Je pense que oui. Maintenant, avec les Capitals, il va en mettre dedans assez souvent, d'après moi. Je pense que oui.
Que cette transaction-là, qu'est-ce qu'elle vous a dit?
Je trouve effectivement, par contre, qu'ils ont payé le gros prix parce que on parle beaucoup de Manta, là, mais Jakob Vrana, lui, l'an passé, là, s'il n'y avait pas la pandémie, c'est un gars de 30 buts et de 60-65 points. Là, il était à 52 points, 69
matchs. Mais il était
scratch
cette année. Là, puis non, on le questionnait sur son attitude de travail. Pete LaViolette, c'est ça qu'il avait dit.
Mais tu sais, c'est un choix de premier tour qui vient d'avoir 25 ans, pour qui il s'est en train de décoller offensivement. Même cette année, je veux dire, prend sa production, mais là, sur 82 matchs cette année, c'est un gars de 50 points puis de 25 buts. Dans une année où il y a de la misère puis il chicane avec son coach. Donc, il y a quand même... c'est un gars pour qui ça a le potentiel de décoller aussi. Donc, les Capitals ont quand même payé le prix. L'autre chose que je me dis, c'est qu'ils vont être gros. Les Capitals étaient déjà gros et vont être très, 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 très gros en avant. Je sens que ça sera pas nécessairement reposant là, pour les attaquants. Les défenseurs adverses, ça va être ça va prendre de la place en zone offensive. Là. J'ai vraiment hâte de les voir, aller avec
Moi, je pense que c'est une bonne acquisition pour les Capitals. Vrana, c'est pas un joueur qui s'est démarqué non plus dans les séries. Hein. Regardez là, les séries qu'il a joué dans la Ligue nationale en 2019, aucun point en 7 matchs. L'année dernière, aucun point en 8 matchs. Dans la Ligue américaine en 2017, aucun point en 7 matchs. T'sais. J'ai l'impression que Mata va peut-être être le joueur des grandes occasions plus que Vrana, puis d'autant plus que s'il y avait déjà des problèmes de gestion au sein de l'équipe, ça va peut-être juste assainir l'équipe. Je pense que c'est une bonne transaction, une meilleure transaction pour les Capitals. T'sais, le choix de premier tour, ça va être un choix de fin de ronde. De toute façon, 26, 27, 28, c'est l'équivalent un peu de Ryan Peeling là, chez le Canadien. Fait que, tu sais, j'ai pas vraiment de problème avec les plus payés par les Capitals.
Bon, on va compléter avec le dossier de Taylor Hall, qui, lui, se retrouve avec les Bruins de Boston. Écoutez, c'est assez incroyable, là. C'est quoi, c'est 8 millions cette année. Taylor Hall, 2 buts seulement. C'est un peu comme Jonathan Drouin, là. C'est,
mais à 8 millions.
Ouais, c'est ça.
Exactement. Donc, presque 3 millions de plus. Mais ce qu'on apprend, parce que hier, ce que tout le monde disait, c'est comment ça se fait que les Sabres n'ont pas été capables d'aller chercher au moins un choix de première ronde pour lui. Et là, ben, ce qu'on apprend, c'est qu'il y avait une transaction sur la table avec une équipe de l'Ouest où les Sabres auraient pu mettre la main sur un choix de premier tour. Mais étant donné que lui avait une clause de non-mouvement, on était obligé de le consulter et lui avait fait son choix, c'était avec les Bruins de Boston qui voulaient aller. J'ai toujours bien de la misère avec ces foutues clauses de non-échange et de non-mouvement. Et là, les Sabres, malheureusement, se sont un peu tirés dans le pied avec cette clause-là qu'ils lui ont donnée. Mais qu'avez-vous pensé de cette transaction?
Ben, moi, je pense que les Sabres de Buffalo, là, honnêtement, comme l'impression qu'ils font rire d'eux autres un peu. Tu sais, je veux dire, si Kevin Adams, là, à un moment donné, c'est le fun d'être gentil. T'as été gentil avec Eric Staal. T'aurais pu avoir plus. T'as envoyé Staal avec le Canadien. T'as obtenu un choix de 3, un choix de 5. À moi, je me trompe. Là, avec Taylor Hall, qui t'a donné à rien, là. Sweet nothing, là. T'as rien donné. T'as déjà Jeff Skinner qui te coûte les yeux de la tête, qui fait pas grand chose. T'as Taylor Hall qui fait pas grand chose. On a parlé, souvenez-vous, quand on a entendu Eric Staal parler, tu sais, il y a un drôle de leadership là-bas, là. Fait que Taylor Hall, là, c'est pas un genou qui arrive. C'est un gars qui a de l'expérience dans la Ligue nationale. Il a pas été capable de tourner la barque de façon correcte avec les Sabres. Puis tu lui donnes encore le privilège, puis c'est ton organisation qui paye le prix. Tu sais, en quelque part, faut que tu tiennes debout. Moi, sincèrement, faut que tu tiennes debout.
Moi, je pense que cette transaction-là remet en doute. Puis déjà, je m'étais demandé à l'époque, pourquoi tu donnes une clause de non-mouvement à un joueur sur un contrat d'un an.
Un an, exactement.
Sur un contrat de 4 ans, 5 ans, je peux comprendre. Non, mais je veux dire, comme je vois même pas c'est quoi le risque pour le joueur, sinon de comme juste accepter le contrat sans clause. Je veux dire, dans le pire des cas,
tu t'en vas passer une fin de saison en quelque part.
3 mois, c'est ça, à Winnipeg, on va dire. T'sais. Mettons que tu veux pas aller à Winnipeg, dans le pire des cas, tu y vas 2-3 mois. T'sais, je comprends vraiment, vraiment pas des deux côtés, ils ont voulu aller là, mais surtout Buffalo, comment ils ont géré ça, parce que là, on voit très bien les conséquences de ça, c'est-à-dire que Buffalo se retrouve avec un choix de 2 au lieu d'un choix d'1. Ça fait mal. Je veux bien croire que ça aurait été probablement un choix de fin de premier tour, mais je vais quand même prendre un choix de fin de premier tour avant un choix de fin de deuxième tour. Là,
ça fait 4 clubs pour Taylor Hall en 2 ans. 4 clubs. Ça, c'est sans compter les Oilers où ce qui a commencé, bien sûr. Je sais pas où est-ce qu'il va bien se retrouver, mais écoute.
Tu sais, ça fait des années là, qu'on entend des commentaires négatifs d'anciens joueurs à propos de Taylor Hall. Là. À un moment donné, clairement, ce gars-là, il a vraiment. Tu sais, je suis pas dans le vestiaire avec lui, là, mais j'entends les témoignages. Là. Tu sais, à un moment donné, c'est un joueur à problème. Le nombre de clubs qu'il fait représente ça. Puis je pense aussi que le marché parle de lui-même. T'sais, il y a eu une offre d'un an comme joueur autonome, c'est celle qui a accepté à Buffalo. Déjà, tout le monde était plutôt surpris de, t'sais, qu'il a accepté Buffalo plutôt qu'une équipe plus prestigieuse, il aurait vraiment une chance de gagner. Là, il est échangé contre un choix de deuxième tour. T'sais, il est moins 21 cette année, il est 5e pire joueur de la Ligue pour le différentiel. Puis c'est pas parce qu'ils s'en font marquer une tonne dans un filet désert, là, mettons, là, les Sabres, là,
non, c'est ça.
Par plusieurs buts, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, je pense que dans la catégorie des joueurs surévalués dans cette ligue-là, Taylor Hall, il est pas mal en haut de la liste.
Les gars, je vais vous dire, là, ce Buffalo, là, je commence à avoir peur pour leur avenir. L'avenir de la franchise. Ça fait tellement pic-pic depuis tellement longtemps qu'à un moment donné, quand c'est moribond année après année, les joueurs veulent pas y aller.
Ouais. Et Kevin Adams, il était mis avec le proprio, je pense. Il y a une bonne relation avec le propriétaire, mais moi, je pense que la solution va passer par un gars comme Daniel Brière. Je pense que quand un gars comme Daniel Brière va être prêt à être DG dans la Ligue nationale, c'est un gars qui a une tête sur les épaules, il va remettre... C'est une question de respect envers l'organisation. Tu sais, je veux dire, c'est une belle franchise, les Sabres de Buffalo. Comme on dit chez nous, c'est un beau setup. Le gars est propriétaire des Bills, propriétaire des Sabres.
Mais on pensait que ça allait changer.
Quelque chose de bien. Ouais, mais.
Ouais, puis avec les Bills, tu sais, ils sont en train de tourner ça. Exact. Donc, tu sais, c'est pour ça que, tu sais, je suis pas sûr que tout part nécessairement du propriétaire, même si les gens à Buffalo sont fâchés contre les Pegula. Je veux dire, ils ont réussi à faire de quoi avec les Bills, qui est une équipe moribonde depuis 25 ans. Ouais. Je me demande pourquoi pourquoi ce même changement de culture-là s'opère pas chez les Sabres. Mais il y a de quoi à faire là. Il n'y a aucun doute.
On a voulu s'acheter le talent. On a voulu s'acheter le talent du côté des Sabres de Buffalo. Puis on s'est fait jouer un vilain tour, honnêtement. Ouais. On le voit avec Skinner. Puis, tu sais, Jack Eichel, là, c'est un marqueur naturel. C'est un gars, c'est une machine. Mais sincèrement, pas sûr que c'est le meilleur capitaine de l'histoire, là. Tu sais,
c'est peut-être aussi un peu jeune.
Bon, ben, c'est bon. Je voulais pas aller là, mais si tu le dis.
Bon, on va s'arrêter là-dessus, les gars, parce que sinon, on va déraper. On a déjà fait 52 minutes. Alors, merci à toute l'équipe pour l'émission de cette semaine. On se retrouve sans faute vendredi. Jérémy Rainville, Guillaume Lefrançois, Alexandre Pratt, merci beaucoup. Mon nom, c'est Jérémy Filosa. Merci aussi à Maxime P. Paquette à la mise en onde. On vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve sans faute vendredi. Salut.